Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu, à ceux qui veulent faire un blog, un podcast, des vidéos, des formations, pour le plaisir ou pour en vivre, à vous de voir quels sont vos projets. Moi je suis là pour vous aider. Alors aujourd'hui je voudrais commencer pour une fois par une petite citation qui s'applique tellement bien à nous, à ce que nous sommes, à ce que nous essayons de faire ici. J'ai lu ce matin, j'ai fini Tools of Titan de Tim Ferriss, et à la fin, enfin la dernière personne qui parle, c'est un chapitre très court, un slammer qui s'appelle Sekou Andrews et qui donne une petite phrase, c'est « Tu veux tellement devenir un papillon que tu es prêt à oublier l'étape de la chenille ». C'est tellement beau, voilà, et ça illustre tellement bien un petit peu les dérives dans lesquelles nous pouvons tomber quand nous faisons du web, quand nous essayons de nous faire connaître. Parce que c'est un vrai piège qui peut nous arriver. Alors je voulais vous... C'est pas que je veux vous dire de faire attention ou quoi que ce soit, parce que vous savez que je suis partisan des choses qui durent un petit peu dans le temps, etc. Et de laisser aux choses le temps de grossir, de devenir plus intéressantes, plus importantes, plus connues, plus visibles, voilà. Et puis ça vous laisse aussi du temps pour vous entraîner, pour publier, pour appuyer sur le bouton plus souvent, etc. Je voulais vous donner, alors, hier, en fait, quand j'ai commencé à prendre les notes de l'émission, je suis tombé sur une petite news. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Monoprix lance un webzine qui s'appelle Monopista, voilà, qui est lancé avec Webedia, donc une grosse société de production, et qui va faire, en fait, c'est un magazine en ligne, hein, donc avec des publications pour décrypter les dernières tendances de consommation dans 4 domaines, interviews, vidéos, tutos, etc. Enfin voilà, et vont être sélectionnés par une agence du groupe. Ils ont sélectionné 7 influenceuses pour faire ces articles-là. Donc ça fera une quarantaine d'articles par mois. Et ça m'a fait penser à un projet sur lequel j'ai travaillé il y a pas 10 ans, mais presque, puisque j'ai retrouvé en fait des factures de l'époque. C'était en 2008-2009 à peu près. Monoprix avait lancé un magazine qui s'appelait Fresh and Fashion. Alors entre-temps, il y en a eu d'autres probablement. Et à l'époque, on était 4, un gars, 3 filles, et on écrivait des contenus toutes les semaines. Alors au début, c'était un volume de contenu qui était d'ailleurs assez important en volume, hein, puis petit à petit, ça avait réduit. Et ces contenus n'existent plus. C'est un projet qui a été arrêté à un moment donné, alors ils avaient un magazine papier, etc. Mais c'est un contenu qui, au bout d'un moment, a fini par disparaître, et qui est tombé dans les oubliettes. Voilà, si vous faites de l'archéologie, peut-être vous allez trouver, je sais pas, ça serait intéressant de regarder. Pourtant, dans mon souvenir, il y a des contenus, je suis certain, qui seraient encore super utiles. Parce que ces contenus-là qui avaient été créés à l'époque, alors certes, il y en avait, vous voyez, quand Monoprix nous dit ils vont décrypter les dernières tendances de consommation, bien sûr, on va être sur de la tendance. Donc, c'est des choses qui ont une durée de vie très courte. La tendance en mode, ou je sais pas quoi, c'est une tendance qui dure quelques semaines. Regardez la mode du hand spinner, enfin... Déjà, vous en trouvez tellement partout qu'on va commencer à moins en moins en parler. Enfin, moi, je trouve que c'est déjà le cas, quoi. Mais voilà, si vous faites de la tendance, etc., déjà, ça a une durée de vie courte. Mais en plus, si vous jetez les contenus au bout de quelques temps, ou rapidement, etc., de toute façon, vos contenus, ils ont une vie qui est très courte. Alors, quand vous appelez Monoprix, vous avez des magasins, etc., des gros budgets com, j'ai envie de vous dire, c'est pas très gênant. Quand vous êtes... Un petit créateur, quand vous lancez, quand vous avez envie de faire des choses et que c'est pas forcément votre activité principale, moi je pars du principe que vous pouvez pas constamment dire tiens je fais un truc et puis je le détruis dans 3 mois, 6 mois, etc. Ne pensez pas à court terme uniquement, c'est un peu le message que je voulais vous faire passer, ne pensez pas non plus trop au retour sur investissement direct à court terme et autres, parce que là on tombe dans un piège. Et le conseil que je donne toujours à mes clients, c'est de ne jamais regarder les statistiques de leur site au départ. Et vraiment, je ne parle pas des premiers jours. Les premiers jours, moi, je les regarde, je vérifie, voilà, que Google Analytics est bien en place, que le shopping, enfin, que les fonctionnalités e-shopping et compagnie sont bien en place, que les suites fonctionnent, etc. Mais je leur dis, non, au départ, on ne regarde pas les stats. Alors, je suis tombé sur un tweet de Nico C, werewolf underscore fr, qui, donc son tweet, c'est « Ma recette pour un blog qui dure, faites des articles sur des trucs qui vous plaisent vraiment et fuck les chiffres d'audience. » Et alors, je suis totalement d'accord avec ça, parce que comme je vous l'ai dit, ça recoupe exactement un conseil que moi je donne à mes clients. Je leur dis un truc, quand on lance un blog, un site ou quoi que ce soit, on ne regarde pas les stats dans les 6 premiers mois, parce que c'est désespérant, c'est décourageant, etc. Si vous regardez les stats dès le premier jour, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez, vous lancez un site, voilà, lancez votre site. C'est quoi la stat du premier jour? 0 vue? Une vue? Vous? Bah, bien sûr, si vous avez un compte Twitter qui est suivi par 10, 15, 20, 30, 100 personnes, vous allez en faire un peu plus. Mais c'est quoi les stats de départ? Alors, si on pense des statistiques à court terme, et puis je vous l'ai dit, hein, si votre truc à vous, c'est de vous faire connaître dans Google, c'est 6 à 9 mois, tranquille. Mais si votre truc, c'est vous faire connaître par Facebook et que votre page Facebook est à zéro, vos stats, elles seront toujours à zéro au départ, parce qu'il faut le temps de grossir, etc. Donc, il faut vous laisser du temps, etc. Si vous pensez que statistiques à court terme, moi, je trouve qu'il y a plusieurs pièges. Alors, il y a un premier piège, par exemple, qui va être dire, bah, tiens, je vais investir en publicité. Si vous avez de l'argent à investir en publicité, c'est pas un problème. Moi, je dis ça à mes clients. J'ai un client qui est un peu pressé parce qu'on a pris 3 ans de retard. Donc, au bout d'un moment, il est pressé de finir par vendre quelque chose. Et il n'était jamais pressé de lancer son site, mais maintenant que le site est lancé, il est pressé de faire du chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Une page Facebook sur laquelle on a dit 10 fans, parce qu'on l'a pas lancé à l'avance, un blog qui n'a jamais mis à jour, donc qui n'a pas eu le temps de créer son audience, pas de Twitter, pas d'Instagram, pas de newsletter, parce que quelque part, comme le site, il n'a jamais voulu lancer le blog, etc., mais on n'a pas collecté de l'adresse mail. Et qu'est-ce qu'on a comme audience? Eh bien, il nous reste un truc, ça s'appelle la pub. Alors, lui, dans son cas, il a de la chance, il peut mettre de l'argent en publicité, mais quand il se rend compte du budget que ça va représenter, quand même, il commence à tilter un petit peu. Oui, mais voilà, nous, on l'a prévenu il y a 3 ans, avec ma femme et autres, et au bout d'un moment, il y a un truc qui est inéluctable, quoi. C'est que si vous êtes pressé sur Internet, ben, la publicité, c'est le moyen le plus rapide. Mais d'ailleurs, et les vendeurs de publicité, hein, Google et Facebook, qui représentent 80% du marché, ne sont pas dupes, hein. Ils vous privent de vues, etc. Vous avez vu, c'est encore le sujet, le reach est encore, j'ai encore vu une news hier, la portée des pages Instagram va encore baisser, celle de Facebook va baisser, celle d'Instagram va baisser, puis va continuer à baisser, de toute façon tout va baisser, dans Twitter tout va baisser, partout tout baisse, mais quelque part il y a un truc qui augmente, c'est la pression publicitaire. Dans les stories Instagram il y en a plus, dans Snapchat il y en a plus, les outils se développent, etc. C'est logique. Il faut qu'ils vivent, hein, quelque part, et puis regardez dans Google, c'est pareil. Au départ, Google, les pubs étaient dans un petit coin, elles sont devenues plus visibles, etc. Et maintenant, être numéro 1 de Google, d'être premier sur un résultat, ne vous garantit de toute façon pas d'être sur la première page. Vous pouvez être sur la première page, mais tellement en bas sous ligne de flottaison que c'est compliqué. Alors, on pourrait voir le côté désespérant des choses, et on pourrait voir le côté, quelque part, il faut se dire qu'on sait que ça prendra du temps, on sait qu'il va falloir construire quelque chose. L'écosystème tel qu'il existe maintenant sur Internet est beaucoup plus complexe qu'il y a quelques temps, il va encore se complexifier. Si on ajoutait les chatbots dans certaines marques, etc., si on ajoutait la réalité virtuelle, si on ajoutait plein de choses, ça devient incroyable. À une époque, on avait un webmaster qui gérait tout. Moi, j'étais webmaster, je gérais 4 à 5 sites à l'époque. Et je gère en plus après les pages Facebook, compte Twitter, etc. Alors j'arrive à gérer. Alors c'était un gros boulot, mais ça se gérait. Maintenant, c'est impossible parce que quand vous êtes une marque, une grosse marque, etc., pour produire du contenu pour Snapchat, pour Instagram, pour Facebook, pour tout ce que vous voulez, il faut plusieurs personnes. Mais vous, mes amis créateurs de contenu, moi, nous, enfin toi, tu, enfin comme vous voulez, vous, eh ben on est tout seul. Voilà, moi, c'est comme avec ma femme, hein, quand sur la marque de thé, sur Check A Club, ben, quelque part, on n'a pas 10 personnes embauchées pour produire ce contenu-là, etc. Et donc, il faut qu'on le gère différemment. Alors bon, il y a de la pub, je vous en ai parlé. Il y aurait du buzz, on pourrait dire, bah tiens, comme je suis tout seul dans un coin, je vais faire du buzz. Alors, moi, le buzz, je vous l'ai déjà dit dans un premier épisode, je suis pas très fan du buzz, parce qu'on sait jamais si ça marche, si ça n'a pas marché. Et puis, des fois, ça nous amène à faire des conneries. Enfin, voilà, si pour vous, faire du buzz... Allez, reprenons l'image d'Ernst Spinner, quoi. Si vous pensez faire du buzz en vous faisant tourner d'Ernst Spinner sur le nez en chantant la dernière chanson de je sais pas qui elle, Starlet, et puis vous mettez à poil en plus en même temps, vous pensez que vous allez faire du buzz? Allez, peut-être, mais est-ce que vous pensez que vous allez vendre quelque chose? Est-ce que vous pensez que vous allez vraiment gagner des fans comme ça? Et ben, on n'est même pas sûr que ça marche. Parce que même si quelque part, j'ai envie de dire, même le fait que ça marche, vous n'en êtes même pas certain. Parce qu'à une époque, on se disait, je fais une grosse connerie sur Internet, au minimum, ça se verra. Mais même ça, maintenant, vous êtes même plus sûr que ça se verra, parce qu'il y a tellement de gens qui font des conneries, mais même pas volontairement, que quelque part, pour que votre connerie marche, il faut qu'elle soit authentique. Donc si vous préparez une connerie qui n'est pas authentique, vous n'êtes même pas sûr qu'elle marchera. Après, vous pourriez succomber à plein de trucs, hein, mais il y a plein de choses. Par exemple, regardez la dernière mode sur Instagram, c'est les Instapods. Qu'est-ce qu'un Instapod? Alors c'est un petit groupe de gens sur Instagram qui se mettent dans un... Ils s'entendent entre eux. Et le principe est assez con. Par exemple, si vous êtes 5 personnes ou 10 personnes, imaginez le truc, il y en a un qui poste une photo, les 4 ou 9 autres, ils vont venir sur la photo, mettre un commentaire, avec plus de 4 mots, parce que sinon ça ressemble à un robot, donc il faut mettre des vrais commentaires, etc. Et en échange, donc vous mettez la photo, mais eux, quand ils mettent une photo, vous mettez un commentaire. Donc imaginez que vous soyez 10 personnes, faites des statistiques, chaque personne qui publie une photo a 9 commentaires minimum, etc. Donc ça vous fait une espèce de masse de contenu. Et c'est le truc, il est assez bête, hein, c'est de se dire, on va piéger Instagram. C'est-à-dire qu'on va générer une sorte un engagement. Et on va dire, on s'assure que chaque photo aura de l'engagement, parce que comme votre flux Instagram est désormais trié par l'engagement, comme sur Facebook, quelque part, si vous avez de l'engagement sur votre photo, elle a plus de chances d'apparaître. Bon. Ça booste l'engagement, peut-être. Ça trompe peut-être l'algorithme d'Instagram. Mais moi, je dis, Instagram, il est pas con. S'il se rend compte que sur vos photos, vous avez toujours les 9 personnes qui commentent, bon, il va se dire, vous êtes des vrais amis. Mais s'il se rend compte de la supercherie, enfin, corrige Instapod avec ce système-là, avec des, comment ça s'appelle? Avec des cerveaux de chercheurs qui ont fait des grandes écoles et qui ont fait beaucoup de maths. Ça me semble pas être un problème compliqué, vous voyez, à terme. Et puis même si ça marchait, si ça trompait l'engagement, si ça vous permettait de vous faire voir plus, est-ce que vous gagneriez des clients? Est-ce que vous auriez des gens qui, finalement, viennent là parce qu'ils sont vraiment intéressés? Parce que c'est bien beau ce petit groupe d'influenceurs, mais bon, ils vont aimer vos 9 photos, mais c'est pas forcément eux qui vont acheter une formation, qui vont acheter un cours, qui vont acheter votre livre en ligne, qui vont cliquer sur la pub ou quoi que ce soit. Imaginez, de toute façon, s'ils doivent le faire sur les 9 autres, voilà quoi, au bout d'un moment, et puis imaginez, ce sont des gros influenceurs qui font ça, les marques, quand elles vont les voir, au bout d'un moment, elles vont se rendre compte qu'il y a un problème, quoi, voilà. Donc, on a plein de petits systèmes de tricherie, etc., et en fait, quand on est rivé les yeux sur ces statistiques, on a une tendance à tomber là-dedans, en disant, tiens, il faut absolument que je fasse de la vue, etc. Ça me rappelle, mais je voulais raconter cette histoire Instagram, par exemple, je disais, l'autre jour, j'ai eu une petite influenceuse qui dit, mais pourquoi vous aimez pas toutes mes photos? On a eu des cas, mais je crois que c'était Hello, it's Valentine, là, qui nous avait fait un cas comme ça, qui avait fait du buzz, parce qu'elle en rate pas une, souvent, elle, et qui avait un jour raconté un truc comme ça, qui avait dit, j'aime les photos de toutes les personnes que je suis, pourquoi vous faites pas pareil avec mes photos à moi? Parce que vous avez une espèce d'écart comme ça, mais le problème de l'écart, en fait, c'est qu'il y est toujours, c'est pas parce que vous avez 100 fans que vous aurez 100 j'aime, mais d'ailleurs, ça peut être au-dessus ou en-dessous, hein. Moi j'ai eu des vidéos, par exemple, 14 000 fans, 200 000 vues. Voilà, j'ai eu des vidéos, j'ai pratiquement plus d'engagement que de personnes, que d'abonnés. Et je parle là sur Facebook, mais je parle aussi, par exemple, sur YouTube. L'autre jour, je me suis rendu compte d'un truc, j'ai une vidéo, et c'est là où je veux en venir. C'est qu'il y a un moment donné, vous avez un autre indicateur que la statistique pure et dure. Il y a un autre indicateur, par exemple, c'est est-ce qu'il y a des gens qui vous envoient un message? Est-ce qu'il y a des gens qui passeraient comment sur votre boutique en ligne? Est-ce que vous avez des appels, des retours, des mails? Moi, l'autre jour, je l'ai dit, il y a une vidéo sur YouTube, ça fait plusieurs fois que j'ai des commentaires. Je me dis, tiens, c'est étrange quand même d'avoir des commentaires sur... C'est ma vidéo que j'avais faite dans le cas du projet Veda, donc une vidéo de vlog tous les jours au mois d'avril. Et cette vidéo, c'est comment filmer avec l'iPhone 7. Comment je fais mes vidéos avec l'iPhone 7. Et donc, j'ai des gens... alors, c'est pas des dizaines de commentaires, c'est 2-3 commentaires de gens qui me disent « Bah tiens, quelle application tu utilises? Moi, je fais ça. Comment tu récupères tes images, tes vidéos, etc. » Cette vidéo, quand elle est sortie, elle a fait 45 vues. 45 vues. Tous les jours, mes vidéos faisaient 45 vues. Aujourd'hui, elle a dépassé les 300. Alors voilà, c'est pas une vidéo virale avec des milliers, etc. Mais Ça veut dire que quelque part, elle trouve, 2-3 mois après, elle trouve une nouvelle audience. Elle arrive à trouver, à toucher des gens, elle arrive à se montrer à d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que cette vidéo-là, qu'on le veuille ou non, c'est un contenu qui va durer. Et c'est une question qu'on me demande souvent, on me dit « mais quels sont les contenus à publier en priorité ?» Hier, je parlais des contenus qu'on peut mettre sur son site. Et je vais revenir sur un mot, le content evergreen, c'est-à-dire ce contenu toujours vert. À la limite, si vous ne voulez pas avoir un blog très fourni, très développé, très compliqué, avec plein de trucs à gérer, moi j'ai envie de vous dire, il faut faire un choix dans le contenu, et il y a un choix que vous pouvez faire qui est relativement simple, c'est de dire « j'ai du contenu qui a une durée de vie courte, mais qui est utile aux gens, je vais le mettre sur les réseaux sociaux, parce que je pense que dans 2 jours, il n'aura plus trop de sens, mais il peut informer les gens, ou peut les distraire. Et puis j'ai un contenu qui aura une durée de vie très longue, c'est le fameux contenu Evergreen, et qui, lui, par contre, pourra intéresser quelqu'un dans 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Et donc, avec cette réflexion que je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu mes stats, par curiosité. Et donc, par exemple, j'ai pris mon blog de mec. Alors, mon article le plus populaire, il date de juin 2016, pour l'instant, en termes de visite pure. C'était un test, un arasoir. Après, j'ai testé d'autres produits, donc j'ai des tests. Alors, septembre 2016, mars 2016, mars 2010, un de mes articles. Le cinquième article le plus populaire. J'en ai un de 2011, 15 juillet 2011. Vous voyez, on va bientôt fêter ses 6 ans. Et pourtant, il est classé en 6e. Ils ont un point commun. Alors, ceux-là parlent de certaines marques, mais pas tous. Et pas que des marques connues, pas que des grandes marques. Ils ont tous un point commun, c'est que ce sont des tests qui apportent une réponse ou qui apportent un avis sur quelque chose. Ils ont un bout d'opinion sur quelque chose en disant « j'ai eu ce produit entre les mains, voici le test complet, voici ce que j'en pense et voici ce que je vous dis ». Des gens maintenant vont sur internet, voient le produit, cherchent un avis dessus et ils tombent sur ces billets de blog, etc. Et c'est pareil sur ma chaîne YouTube, j'ai pas regardé les stats. Un de mes articles les plus populaires, c'est aussi un test d'une tondeuse, d'ailleurs, pareil, Philips. Mais c'est pareil, c'est que les gens cherchent la référence, ils se disent « tiens, je veux avoir l'avis de quelqu'un », et ils tombent dessus. Et bien, ce contenu-là, si je l'avais mis sur Facebook en 3 mots ou sur Instagram, peut-être ne serait jamais remonté, parce que pour l'instant, ben, l'indexation de ces contenus-là, pour les trouver, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai continué mon petite expérimentation. Hein. Par exemple, sur mon blog bertrandsoulier.com, si je prends les contenus les plus populaires, j'ai du 2006, j'en ai 3 de 2012, j'ai du 2011 et du 2015. Je vous donne quelques exemples de ce que j'ai dedans. J'ai dû recadrer les images pour une timeline idéale sur Facebook. J'ai mettre un raccourci Cloud dans la barre du Finder de macOS. J'ai publié sur Instagram depuis son ordinateur, utilisé Groupon pour lancer un commerce physique. Mes 15 applications préférées sur Mac, etc. Je pourrais continuer comme ça. Sur Cyberbunia, par exemple, j'ai 3 sujets de 2000 de récents qui sont des gros événements, mais c'est l'actualité clermontoise qui fait que là, ils ont une grosse visibilité. Et à côté de ça, j'ai que des anciens articles. Par exemple, je vous donne un exemple, un truc bête. Des articles les plus populaires sur Cyberbunia de ces derniers temps, c'est « j'ai testé un trajet en bus » pour aller faire un Clermont-Paris ou des Clermont-Montpellier en Flixbus. Et ça, je l'ai mis sur Snapchat. Donc, sur Snapchat, ce jour-là, en direct, je disais, voilà, je suis monté dans le bus, voici comment ça se passe, je mettais des images et des questions en direct. À la fin, quand je suis arrivé, j'ai enregistré ce contenu-là, je l'ai monté en vidéo, je l'ai publié sur YouTube, et j'ai fait un article. Et ben, ces contenus-là continuent à vivre. C'est-à-dire que l'article sur le site, ainsi que la vidéo sur YouTube, font partie de mes contenus les plus populaires. Alors que pourtant, c'est un contenu éphémère, puisque sur Snapchat, il a disparu. Mais le fait de l'avoir gardé, le fait de l'avoir conservé, le fait de l'avoir enregistré, lui a donné une autre valeur, une valeur plus importante. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci de voix. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la valeur de votre contenu, c'est un petit peu compliqué, c'était une discussion que j'avais hier, c'est que à l'avance, c'est compliqué de savoir si votre contenu va marcher. En fait, vous ne savez pas. Ce qu'il faut faire, c'est lancer des perches. Vous allez dire, bah tiens, j'ai une idée de contenu, il marche pas. Si vous voyez qu'il marche bien, vous allez peut-être vous dire, tiens, je vais le doubler. Mais ça ne veut pas dire qu'il marchera. Mais peut-être que vous allez peut-être trouver une niche de contenu. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être faire un bout de série, faire 3-4 contenus là-dessus, etc. Ça, c'est pas impossible. Et puis surtout, c'est que plus vous lancez des lignes à l'eau, j'ai envie de dire, plus vous essayerez d'attraper des poissons, peut-être que certaines vont ramener plus de monde que d'autres, mais si vous faites 100 ou 200 billets de blog, pour donner un exemple, c'est 100 ou 200 chances. Et avec toutes les techniques de longue traîne, etc., ben, c'est 100 ou 200 chances. Allez savoir, peut-être qu'on peut faire une belle audience. Voilà, c'est un petit peu mon avis là-dessus. Après, ça ne veut pas dire aussi que vous devez passer votre temps à faire que ça. Ce que je dis souvent aux gens, quand on en parle de ça, quand on me pose des questions dans les formations, etc., c'est qu'il y a des contenus qui durent sur lesquels ça vaut le temps que vous investissez du temps, mais il y a du contenu qui finalement serait intéressant pour les gens et que vous n'avez pas le temps de faire, vous n'avez pas envie de faire, mais qui serait quand même utile. Ou alors vous avez des gens qui sont beaucoup mieux placés que vous pour le faire. Alors, dans ces cas-là, vous avez deux solutions. Soit vous en faites rien, voilà, soit vous faites un truc très connu, vous faites des liens. Et c'est ces liens, ce que j'en ai déjà parlé, hein, c'est ce qu'on appelle la curation par exemple. Qu'est-ce que c'est de la curation ? Ben c'est, vous faites de la veille, vous trouvez des liens intéressants, vous les repartagez. Ben, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez créer en fait une sorte de nouveau contenu, mais c'est un contenu qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps à faire, puisque de toute façon, il est issu de votre veille. C'est un contenu d'organisateur. C'est le fait de faire une veille et le fait de l'organiser, de la structurer, de la partager avec les gens, donne beaucoup de valeur. Donne de la valeur à votre travail, donne de la valeur à ce que vous faites, donne de la valeur à la personne que vous êtes, parce qu'il montre aussi à quoi vous intéressez, ce que vous cherchez. Il peut vous donner de la valeur en tant que chercheur d'infos, d'ailleurs, pour certains cas, ça peut être intéressant. Et puis surtout, il est utile aux gens. Vous leur rendez un grand service. Si quelqu'un, si au lieu de garder ces liens là pour vous, vous les partagez quelque part, vous allez aussi aider les gens que vous voulez suivre. Donc si ce lien a une pertinence pour votre audience, si vous trouvez qu'il peut être inspirant, qui peut être, donner des idées, qui peut compléter ce que vous avez raconté, etc. Citez-le, mettez-le en valeur, montrez-le, organisez votre veille, structurez-la, etc. À vous de voir comment on va publier. Alors, il y a des gens qui publieront ça sur un blog, par exemple, vous pouvez publier toutes les semaines une sélection des 5 meilleurs liens que vous avez vus dans la semaine. Moi, je le fais par newsletter maintenant. Je me suis posé la question d'ailleurs, je me suis dit, est-ce que ma newsletter, ça serait pas intéressant d'être sur mon blog, vous voyez, le contenu. Mais en fait, j'ai envie que les gens qui s'abonnent par la newsletter, ceux qui sont abonnés le savent, vous avez des liens que j'ai pas encore partagés pour certains sur les réseaux sociaux. Derrière, je vais les partager. Mais la newsletter, au début, je l'ai partagée les deux premières sur les réseaux sociaux. Mais je me dis, les gens qui sont abonnés doivent avoir l'exclusivité de ces liens-là. Ça veut pas dire que je les partagerai pas ensuite par après, j'en reparle, etc. Mais ça veut dire que quelque part, mon objectif aussi, c'est de dire que ces liens-là que je collecte, eh ben, je les donne en primeur à ceux qui ont fait l'effort de laisser une adresse mail, qui se sont engagés par rapport à ce que je raconte, c'est-à-dire qui ont accepté de suivre et qui ont accepté de m'écouter et qui ont fait l'acte de montrer qu'ils m'écoutent. Ce qui est une différence par rapport au podcast, par exemple, où là, quand vous m'écoutez, moi, je ne sais pas que vous m'écoutez. Statistiquement, j'ai des stats qui vont me dire si vous m'écoutez ou pas, mais je sais pas quelle personne précisément va écouter quoi, jusqu'où vous allez aller, est-ce que vous êtes combien de personnes sont arrivées à ce que je suis en train de raconter là maintenant, vous voyez. Vous inscrivez pas avec une adresse mail pour écouter chaque épisode podcast. Je sais pas qui écoute quoi, etc. Alors je le sais comment ? Je sais si vous me répondez, si vous mettez un commentaire, si vous me posez une question, si vous suivez certains conseils que je peux donner, etc. Ceux qui sont sur du mail, eux, ils sont inscrits, donc quelque part, ils ont demandé à recevoir cette information-là, et donc, bah, je trouve que c'est aussi logique de les récompenser. Alors, ce que je voudrais, pour finir cette idée-là, donc vous avez compris un petit peu mon idée, hein, c'est de dire, il y a du contenu, il faut lui laisser un peu de temps pour vivre, c'est dommage aussi de perdre certains vieux contenus, alors on pourrait dire que c'est de la nostalgie ou que c'est un côté émotion, etc., garder ses vieux contenus, mais moi je me rends compte que mes vieux contenus gardent de la valeur encore parce qu'ils rendent service aux gens et que je gagne un peu d'audience avec ça. Vous avez des contenus dont vous ne savez pas encore la valeur qu'ils vont avoir, mais ça vaut le coup de les publier, puis sur des outils où ça va durer, puis vous êtes des contenus où vous dites bah, ça n'aura jamais aucun succès, mais ça va me permettre de ramener des gens chez moi. Et je les mettrai sur des réseaux sociaux pour faire vivre mes réseaux sociaux. Ça peut être une stratégie, vous avez compris à peu près là où je veux en venir. Et puis vous avez ces liens de curation que vous pourriez, j'ai envie de dire, si vous trouvez un super lien, vous pouvez l'utiliser 3-4 fois, quoi. Je vous l'ai dit, hein, vous pouvez l'utiliser dans votre newsletter, vous pouvez l'utiliser sur les réseaux sociaux, vous pouvez le mettre dans un billet de blog après, vous pouvez le réutiliser, le citer dans deux billets de blog, etc. Un bon contenu que vous trouvez, il a toujours une importance, vous pouvez toujours le réutiliser. Moi, je les réutilise aussi dans mes formations, dans mes cours, enfin, plein d'endroits. Ainsi de suite, comme ça, quand vous accumulez ces différents contenus, bah, vous arrivez finalement à apporter de la valeur aux gens, à leur montrer tout un tas de choses. Ce que je voulais vous dire, c'est que à un moment donné, ce contenu-là, vous ne perdrez pas de une chose, c'est que vous avez passé à une sorte de pacte entre vous et votre audience. Et comme je l'ai dit, l'audience, en fait, elle n'a pas de temps à perdre. Donc, pour qu'elle ne perde pas son temps, vous allez faire en sorte d'apporter le meilleur des contenus. Et si vous avez ce pacte qui est mis en œuvre, si vous le respectez, ben moi j'estime que quelque part, ça va se, votre visibilité va finir par se développer. Et que même sans regarder les stats, même sans avoir le nez rivé sur les statistiques, vous allez vous rendre compte que quelque part, eh ben, ça va se développer. Alors bien sûr, après, il y a des statistiques qui font plaisir. Il y a des moments où vous avez besoin d'avoir ces statistiques-là, vous avez besoin de regarder ce qui se passe. Mais c'est compliqué. Par exemple, un jour, on a rencontré un e-commerçant. Si vous arrivez avec 100 visiteurs par mois, et il va regarder, il va dire... Bah, même une vente, vous ne pouvez pas tirer vraiment un vrai bilan de 100 ou 200 visites ou qui passent parce qu'en fait, chaque vente est presque pas exceptionnelle, mais vous voyez ce que je veux dire là. C'est pas une généralisation, quoi. Si Amazon, ils font des statistiques sur 10 000 ou 100 000 ventes, ils ont de quoi généraliser. Si vous avez 100 visites sur un blog, vous pouvez pas généraliser. Mais quand vous en avez plusieurs milliers, donc au bout de plusieurs mois, quand c'est ce que je vous souhaite à tous, là, vous pourrez commencer à vraiment tirer profit de l'analyse statistique, etc. C'est pour ça aussi que je suis très gêné souvent par les conseils que je lis sur des blogs qui s'adressent à des grosses sociétés qui ont des grosses audiences. Quand vous n'avez pas une grosse audience, au départ, les statistiques, elles vous disent pas grand-chose. Alors, c'est pas la peine de se miner le moral avec des statistiques qui disent pas grand-chose, qui sont pas assez grosses, etc. Et on reparlera plus tard, après, des statistiques un peu plus complètes. Ce que je voulais finir par deux choses. La première, c'est une citation de Chris Brogan. Vous voyez, j'ai commencé par une citation, je finis par une autre. Et je l'aime bien parce qu'elle est aussi là bien dans mon esprit. C'est « Le monde a trop d'experts, soyez plutôt quelqu'un avec une opinion, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui écrit pour donner aux autres quelque chose qui soit informatif et qui ne soit pas ennuyeux. Des personnes ont besoin de savoir ce que vous avez à dire. » Voilà. Donc même si vous pensez qu'il n'y a pas grand monde qui va être client de ce que vous racontez, je vous rappelle ce que je disais, et j'ai mis le lien sur les 1000 vrais fans, là, c'est un article que je trouve fondamental là-dessus. C'est que finalement, vous n'avez pas besoin de toucher des millions de personnes pour arriver à vivre de quelque chose. Si vous arrivez à toucher 100, 200 personnes, imaginez par exemple si, vous arrivez à toucher 1000 personnes et puis vous avez un petit pourcentage qui vous donne un peu d'argent sur Patreon, sur une formation que vous vendez, sur un e-book que vous vendez ou quoi que ce soit. Regardez la somme que ça peut faire. Et ben, dites-vous que finalement, ce premier pas, il n'est pas inintéressant, quoi. Vous n'êtes pas obligé de toucher des millions. Ceux qui sont obligés de toucher des millions de gens, c'est ceux qui, ce que je disais hier, c'est les médias qui sont obligés de mettre de la pub. Quand vous avez une pub qui est achetée à 1 euro du clic, vous pourriez vivre facilement, mais quand vous êtes à 1 centime du clic, moi sur Cyberbounia, j'ai des pubs Criteo, vous savez, la belle pépite française, etc. Des fois, ils m'achètent des pubs, des trucs à 1 euro du clic. 1 centime du clic. Mais vous rendez compte, 1 centime du clic. C'était tellement bas qu'au bout d'un moment, j'ai coupé la pub. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu quelques dizaines d'euros, mais si j'avais voulu passer de quelques dizaines d'euros à quelques milliers d'euros pour financer une rédaction, par exemple, il faudrait que mon audience, elle se multiplie non pas par 10, par 15, par 20, mais par, je sais pas, par 100 ou par 1000, vous voyez. Et là, c'était pratiquement impossible. Donc, ce qui veut dire que quelque part, eh ben, la publicité, pour moi, c'est pas non plus une solution pour me développer. Et donc, j'avais enlevé la publicité, j'ai m'étais un peu déconnecté des statistiques pour essayer aussi de trouver des nouvelles formes, des nouvelles idées, etc. Donc je me suis donné un peu de temps au temps. Voilà. Alors, pour finir, maintenant, je voudrais mettre en avant, enfin dire un petit coucou, un petit bonjour et des petites félicitations à deux personnes. La première, c'est Tigre Noblois qui a lancé son streetcast hier par rapport au moment où j'enregistre. Donc, il est sur Spreaker. Si vous cherchez Tigre Noblois sur Spreaker, il doit être sur iTunes ou pas aussi, je pense, parce que je l'ai retrouvé assez facilement. Donc, il a publié hier son premier épisode. Il parle d'ailleurs de ce que je vous raconte, parce que c'est un auditeur fidèle. On a un peu discuté aussi par Twitter, etc. Et bien joué. Voilà, t'as fait le premier pas. Et puis, il nous a fait un bel épisode de teasing, hein, parce qu'on a envie d'écouter le deuxième épisode, puisqu'il nous laisse sur notre fin après le premier. Donc, j'ai envie de dire, bien joué, bravo, continue comme ça, accroche-toi et lâche rien, comme diraient certains autres streetcasters. Et le deuxième bravo, je l'enverrai à Lionel, dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui a ses questions, etc., qui se reconnaîtra, et qui a lancé sa page de formation, dans laquelle vous pouvez vous inscrire, laisser votre mail, pour avoir sa newsletter et puis savoir où ça va aller. Bravo parce que il se lance aussi là-dedans, etc. On en a parlé plusieurs fois et puis ça fait plaisir de voir que ça se concrétise. Voilà. Et ce qui me fait plaisir à moi, c'est que je me rends compte comme ça. C'est une manière pour moi de voir aussi ce que je sais, ce que je raconte à peu près, hein. Mais en communication, il ne faut pas oublier qu'il y a un émetteur et un récepteur. Et en fait, quand je vois ces initiatives, quand j'ai des gens qui me font ces retours-là et autres, j'ai le retour de vous, de ceux qui reçoivent l'information, et je vois ce qu'ils en font. Des fois, je me rends compte, je me dis, tiens, il y a peut-être été quelques imprécisions, il y a peut-être des choses à préciser, ça va me donner l'idée de faire un autre épisode, un autre rebond, de rebondir sur d'autres choses, etc. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, moi, je regarde pas trop les statistiques, mais par contre, ce que vous en dites, les retours que vous me faites, les projets que vous lancez, ce que vous faites avec mes conseils, etc., c'est super important et ça me fait chaud au cœur quand vous me dites que je suis utile à quelque chose. Voilà. Donc, je voulais finir là-dessus. Je vous rappelle d'ailleurs sur ces principes d'entraide que j'ai lancé le groupe sur Facebook pour discuter de tout ça. Je vous mets dans les notes de l'émission les liens vers le site de Lionel et le podcast, le streetcast de Tigre Dobla. N'hésitez pas à aller les écouter, vous inscrire, suivre ce qu'ils font si ça vous intéresse. N'hésitez pas à venir vous inscrire sur le groupe Facebook. Et moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.